Radio HDR.
Radio HDR.
Le mix
des cultures.
De toutes les cultures.
Sur le 99.1 FM.
99.1 FM.
J'imagine que t'es prêt pour l'expérience.
Cette semaine pour DJ Academy, on accueille un oiseau rare des musiques électroniques,
c'est Petru KSS, un esprit libre, à la fois chercheur, producteur et bidouilleur sonore. Derrière ce pseudonyme, qui peut faire penser à un artiste venant de l'Europe de l'Est, on y retrouve en fait un Français d'origine corse, Pierre Griselli. Il est globe-trotteur de la création sonore et, particularité qui claque, il est le lauréat d'une bourse de doctorat pas comme les autres, The Richie Houghton PhD Scholarship in Electronic Music Cultures and Production. En fait, c'est un doctorat qui est soutenu par Richie Houghton lui-même. Autant dire qu'on ne parle pas ici à un simple amateur de synthé poussiéreux. Avant de s'envoler dans l'univers de Petru KSS, il faut également savoir qu'il a passé 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo à sculpter le son de super productions comme Rainbow Six Siege, Batman Arkham Knight, Kinect Sports ou encore Assassin's Creed. Bref, autant de mondes sonores immersifs qu'il a contribué à façonner avant de revenir à sa matrice, la performance live vivante. Et c'est justement ce qu'on retrouve dans son tout nouvel album, Colibri Live LP, un disque réalisé sans plan préétabli, composé de décisions prises en temps réel, sans filet et sans architecture démonstrative. C'est juste du risque, de l'instinct et une vraie respiration musicale. Cet album est spontané, libre et vibrant à l'image de son nom, alors place à l'envol. Bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à Petru KSS. Et là, on débute l'émission avec son titre « Landing ». Bonsoir Pierre, bienvenue à toi.
Bonsoir Stéphane, merci de m'avoir invité.
Tu es originaire de Corse, une terre de tradition sonore et très éloignée des grandes scènes techno. Comment la Corse a-t-elle influencé ton approche artistique ?
Alors c'est marrant parce que... Est-ce que ça a influencé directement mon son ? Peut-être pas. Maintenant, est-ce que ça a influencé ma créativité ? Ou les, on va dire un petit peu cette... créativité un peu naturelle, c'est possible. J'ai un oncle qui chante dans un groupe de polyphonie corse. J'ai même essayé de faire un petit remix à un moment donné, mais c'est surtout en fait que j'ai été baigné là-dedans depuis très jeune, quoi. Paradoxalement, je ne suis pas du tout un chanteur de polyphonie corse. Mais peut-être que ça a suscité cette envie de création.
Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'il y a un lien entre le paysage corse et ton imaginaire sonore ?
C'est marrant parce que on m'a posé cette question plusieurs fois. Enfin, mon but, c'est pas de faire entendre les oiseaux et la nature spécifiquement dans ma musique. Mais par contre, il y a un petit côté sauvage, un petit côté d'envie de découverte et d'aventure, ce genre de choses là quoi, c'est vraiment important pour moi. Ce côté sauvage, ça veut dire surtout ne pas forcément me conformer à quelque chose qui existe, et je pense à la nature dans le sens où le maquis il pousse un peu n'importe où, il va dans n'importe quelle direction, et ma musique de temps en temps elle est un petit peu comme ça, et je joue pas mal sur la tension entre justement partir dans toutes les directions et essayer de rattraper ça pour que ce soit un petit peu cohérent quand même. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais il y a un autre truc qui me vient en tête, c'est alors c'est pas spécifique à la Corse, mais la nuit en Corse, pardon, le ciel est incroyable en général, quoi. Et puis, alors je dis ça parce que là je suis basé à Londres et que du coup c'est pas du tout la même chose. Mais bon, c'est certain qu'il y a des endroits en France où le ciel est aussi incroyable, il y a des observatoires et tout ça. Mais moi qui suis à Londres, je ne vois plus ça régulièrement, on va dire. Et quand je rentre chez mes parents en Corse et que je me retrouve l'été, la nuit à regarder les étoiles, je trouve ça absolument incroyable. Et quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais basé en Corse, bah, je trouvais ça beau, mais c'est vraiment quand j'ai plus vraiment eu accès à ça que je me suis rendu compte à quel point j'étais, je sais plus comment dire en français, mais spoilé en anglais. Ouais, c'est ça, on dit comme ça en français aussi.
On dit spoilé en français aussi, ouais.
On dit spoilé, ouais, voilà. Donc du coup, ouais, j'ai été spoilé quand j'étais gosse par la beauté de la nature et tout, et je me rends compte vraiment maintenant que j'y ai un petit peu moins accès, quoi.
Ton blaze et tes origines nous font penser que tu as les pieds sur terre mais la tête dans l'espace. Ton blaze, c'est Petru KSS, KSS pour l'abréviation de Colibri Space Shuttle. Alors, Space Shuttle, ça fait forcément écho à cette navette spatiale. Le Colibri, donc lui, nous ramène plutôt sur Terre. Colibri, c'est écrit avec un K. Pourquoi un K plutôt qu'un C ?
J'ai beaucoup d'intérêt pour l'Allemagne. Et donc, Colibri, ça a plusieurs significations. Bon, alors la première, on va dire, c'est le côté nature et le côté oiseau libre. C'est un des oiseaux les plus libres sur Terre. Il peut naviguer en avant, en arrière, en haut, en bas. Il est très pacifique, il butine des fleurs. Donc il est assez unique quand même, et il est très très joli. Donc on va dire que la liberté, la beauté, tout ça c'est intéressant pour moi. Le second point, c'est il y a une série qui s'appelle Deutschland et une année, peut-être 83 ou je sais plus, je m'en souviens plus exactement. Hein. Deutschland et un numéro. Et en fait, c'est pendant la guerre froide, quand l'Allemagne était scindée en deux. Le caractère principal est engagé chez les Stasi. En gros, c'était le service d'information. Bon, ils se faisaient la guerre. Hein. Les deux pays se faisaient un petit peu la guerre. Et il y en a un, c'est un agent secret, on va dire. Et son surnom, son codename, c'est Colibri. Donc ça m'a marqué, ça c'était dans les, je sais plus, 2015, un truc comme ça, je pense, 2015 ou 2016. Ça te dit quelque chose ou...
Personnellement, là, j'ai pas la référence.
Ok, bah, tu regarderas ça sur Google. C'est une série qui est assez, je sais pas, ça m'a marqué, j'ai bien aimé cette série. Et donc, son nom de code... Peut-être que son nom c'est Hans, mais son nom de code c'est Colibri avec un K. Et donc voilà, ça vient de là aussi. Ça m'a marqué, ça m'est resté, et puis je l'ai gardé, quoi. Donc ça c'est pour Colibri. Mais après il y a Space Shuttle. Donc Space Shuttle, forcément c'est une navette spatiale. Donc ça c'est le côté shuttle. Pour moi c'est plutôt la découverte, l'observation, le mouvement. Donc barouder dans l'espace, on va dire. Plutôt d'un point de vue pacifique, mon but c'est pas de conquérir l'espace, c'est pas de détruire des planètes, c'est plutôt de naviguer et d'observer, quoi. Donc ça c'est le côté shuttle, et le côté space, bon, qui est associé à Space Shuttle forcément, mais le côté space c'est la grandeur de l'univers et l'envie aussi de découvrir, quoi. Donc ça c'est KSS.
Et bien là on va embarquer dans une capsule. Capsule qui est extrait de l'album Colibri Live LP. On va dire que c'est un album concept. Tu nous en parleras beaucoup plus en détail tout de suite après. Il s'appelle Petru KSS. C'est notre invité cette semaine dans DJ Academy. Et on se retrouve juste après ce morceau, en sachant que l'album est déjà disponible dans les bacs. On se retrouve après ce morceau.
DJ Academy, le mag, l'interview.
Nous venons d'écouter Capsule, qui est l'un des morceaux extraits de l'album Colibri Live. C'est un album digital, c'est un album concept. Avant de parler de cet album concept, on va s'intéresser un petit peu aussi à ton parcours. J'ai vu ça sur les internets, au départ je pensais que c'était une blague, et puis en fait non, c'est super sérieux. Tu as une formation doctorale autour d'une bourse délivrée par Ricciottine. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Parce que j'en avais jamais entendu parler avant de préparer notre interview, pour être honnête.
Alors en fait, ce projet, c'est un peu lunaire quand même, parce que il y en a pas beaucoup, quoi, et certainement pas en France. Et je dis pas ça pour critiquer le système français, mais je pense pas que ce genre de choses existe en France. De ce que j'ai vu, c'est pas les thèmes qui intéressent la musique électronique, en tout cas. C'est pas vraiment ce qui intéresse les universitaires en France. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu lunaire. Quand j'ai vu ça, c'est un truc qui a popé sur mon feed Facebook il y a 3 ans. Ouais, ça devait être en janvier ou février 2023. Et qui disait, attention, Ricciottine Scholarship for Electronic Music, Research in Electronic Music. Bon, je l'ai vu et ma première réaction, ça a été waouh, celui qui va faire ça, il a trop de chance, quoi. Et j'ai laissé passer, quoi. Mais en fait, j'ai plusieurs potes qui m'ont écrit, qui m'ont dit tu t'es inscrit à ce truc-là? Plusieurs fois, j'ai fait non. Mais toujours dans ma tête en me disant, mais celui qui a ce truc-là, il a trop de chance, quoi. Et bon, j'ai eu plusieurs messages comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, ok, c'est bon, je vais m'inscrire, quoi. En plus, mon parcours était valide. Et pour faire un doctorat, il faut un master. Donc, j'avais un master déjà. Donc, allez, pourquoi pas, quoi. Et en fait, l'inscription, c'est au fur et à mesure de l'inscription que je me suis rendu compte un peu de la grandeur et de l'importance du truc, quoi. Bon, déjà, il suffisait pas de s'inscrire. Alors ça, moi je pensais qu'il fallait s'inscrire, mais non, il fallait soumettre un dossier, une proposition de thèse, quoi. Voilà, alors moi, une proposition de thèse, j'ai eu mon master en 2011, donc ça fait longtemps les études quand même, hein. En 2023, ça faisait longtemps que c'était derrière moi, donc se remettre là-dedans, c'était un peu un challenge, quoi. Je me souviens, j'ai appelé l'université et j'ai eu un appel avec mon futur, du coup, aujourd'hui, mon superviseur actuel, on lui demandait un petit peu comment ça se passait et quels seraient les thèmes qui les intéresseraient. Parce que pour moi, dans ma tête, je postulais à un doctorat où il y avait déjà des chercheurs qui faisaient ça. Peut-être qu'ils avaient déjà une idée de où me placer, quoi. Enfin, c'était dans ma tête, quoi. Et donc, le superviseur, qui n'était pas encore mon superviseur, mais il me dit alors, t'as des idées? Et je lui dis, ah ouais, j'en ai plein. Donc là, je lui sors une liste que j'avais prévue. Et il me dit, non, mais ça se passe pas comme ça, une thèse. Et j'ai dit, comment ça? Et il me dit, bah là, tu m'en as sorti 25. Il faut que tu en choisisses un. Je fais, mais comment? C'est pas possible. Il me dit, si, il faut que tu choisisses un sujet et que tu y ailles à fond, quoi. Donc ça, c'était un des premiers chocs. Et à partir de là, j'ai bossé pendant, je sais pas moi, un mois ou un mois et demi, un truc comme ça, à bosser sur une proposition de thèse qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, j'ai pas vraiment bougé. Et donc ma thèse, c'est sur le... je vais simplifier ça, mais c'est les pratiques live techno. Donc c'est et surtout solo. Solo, ça veut dire c'est les artistes qui se trimballent avec une valise et qui vont jouer en club. Quand je dis ça, c'est pour exclure un petit peu les gros groupes comme Chemical Brothers, qui ont un truck et deux ingénieurs du son ou une équipe. Ce qui m'intéresse, c'est les artistes live qui ont à peu près la même carrière qu'une carrière de DJ. Donc ça c'est mon sujet. Et pour en revenir à Ricciottine, parce que tu en parlais tout à l'heure, Ricciottine, il a servi de catalyseur, on va dire comme ça. Et je l'ai rencontré plusieurs fois, on a parlé plusieurs fois de mon sujet, je l'ai interviewé aussi. Tout ça, ça a donné une structure à quelque chose que je faisais déjà, parce que le live, j'ai pas commencé à faire du live avec l'université, mais ça m'a permis de prendre de la distance. Pas uniquement de prendre la distance, parce que j'arrive aujourd'hui à être complètement dedans, mais à aussi prendre de la distance. Donc ça me permet. J'ai dû apprendre à pouvoir faire ce mouvement de zoom, on va dire, quoi. Voilà, peut-être que j'ai été un peu trop loin dans ma réponse, là, je sais pas.
C'est ta réponse, j'arrive à te suivre. Qu'est-ce que tu as pu apprendre dans ce cadre académique et que tu n'aurais peut-être jamais appris sur un dance floor?
Tout ce que je fais sur un dance floor, c'est assez brut et assez spontané. C'est très spontané, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour le live. Et justement, le côté académique, ça permet de prendre de la distance, d'écouter d'autres angles. J'ai fait une quinzaine d'interviews avec des artistes comme j'ai rencontré Octave One, donc j'ai rencontré pas mal d'artistes, Hendrik Schwartz, et puis aussi surtout de plusieurs styles différents. Toujours dans la techno et musique électronique, mais bon, Hendrik Schwartz c'est plutôt mélodieux, Octave One c'est un peu plus house techno Detroit, Richie Rothin c'est de la grosse techno. Bon, donc du coup je me suis pas vraiment arrêté à un style. Donc ça permet de voir en fonction du style que font les gens, est-ce qu'ils choisissent les choix qu'ils font de matériel, de tout ça c'est important. D'écouter les différents angles de plusieurs personnes, ça c'est vraiment important. Ensuite, il y a le côté académique. Donc je suis à l'université, donc il y a des gens qui font d'autres recherches et il y a une certaine façon de parler d'un point de vue académique. Il faut démontrer les choses, il faut s'appuyer de textes qui existent déjà avant. Et tout ça, c'est fastidieux et c'est un truc que... Bon, je ne veux pas parler pour les artistes, mais j'ai pas l'impression que c'est un travail que les artistes font. Et ça fait partie du boulot de faire une thèse. De pouvoir démontrer ce qu'on explique à travers d'autres textes pour pouvoir ensuite développer quelque chose et en parler, quoi.
Aujourd'hui, tu es docteur, ça y est ?
Ah non, pas du tout. C'est en cours, c'est toujours en cours. Je suis sur ma dernière année. C'est un peu tendu, enfin c'est pas si tendu, mais je pense que si tu demandes à n'importe qui fait un doctorat, et tout, en fait ça passe par des phases de des fois où t'es en confiance, des fois t'es plus du tout en confiance, tu te demandes ce que tu fais, c'est un peu... Je sais pas, enfin je connais pas beaucoup de gens qui ont fait un doctorat et qui disent « Ah ouais, ça s'est bien passé de A à Z, quoi ».
Bah, c'est des moments de doute, des moments de remise en question, et puis surtout j'imagine qu'il doit y avoir des évolutions à travers tes recherches, avec notamment tout ce qui est évolution technologique. Puis je pense que parler d'intelligence artificielle aujourd'hui dans la création musicale, c'était pas un sujet il y a 2 ans par exemple.
Non, c'est vrai, en fait, une autre façon que j'ai d'expliquer mon doctorat, c'est un peu un snapshot, une photo on va dire, de ce qui se fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui sur une fenêtre de 3 ans, parce que bon, c'est à peu près la durée d'un doctorat. Ça me rappelle un truc que j'ai dit à mon superviseur au tout début, quand je faisais ma proposition de recherche. J'ai dit, mais en fait, moi je suis très passionné par ça, mais ça sera plus valide dans 10 ans. Il m'a dit, je comprends ton point de vue, mais si tu réfléchis, il y a des gens qui font encore des thèses aujourd'hui sur une composition faite à partir de violon qui date des années du 18e siècle, tu vois. Donc il ne faut pas se dire que ta recherche elle va être caduque dans quelques années, parce que c'est possible. Mais le but, c'est pas que ce soit valable ad vitam aeternam. Le but, c'est d'expliquer quelque chose inscrit dans le temps. Et donc, effectivement, ma recherche pourra très bien être la base d'une autre recherche dans 10 ans, quand les robots feront de la musique. Je sais pas.
Et est-ce que la prochaine étape, ce serait de devenir professeur dans des écoles ? Parce qu'aujourd'hui, je vois hein, des musiciens confirmés devenir professeur de musique assistée par ordinateur, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être branché par la suite, la transmission ?
Ah ben, en fait, je fais déjà ça. Je suis déjà prof en fac. Bon, c'est à travers le doctorat. Et c'était un petit peu la contrepartie de la bourse. Et moi, ça me plaît bien, la transmission. Est-ce que je ferais ça H24 ? Ou plutôt full time, pardon, j'ai pas les mots français. Est-ce que je ferais ça en temps plein ? Ouais, non, je pense pas. J'aime bien la diversité, j'aime beaucoup la création, j'aime bien la transmission. Et c'est là que j'aime bien cette balance. Comment on dit ça ?
Oui, cette balance, cet équilibre.
Cette balance, ouais. Cet équilibre, exactement. J'aime bien cet équilibre. Pouvoir transmettre, pouvoir créer, pouvoir jouer aussi. La performance, c'est vraiment important pour moi. Est-ce que je pourrais avoir une carrière uniquement de producteur ? Je pense que ça m'emmerderait un petit peu parce que j'ai besoin aussi de jouer, tu vois. Donc tout ça, cette mixité, ça me plaît bien, quoi.
Et ben on va passer de la théorie à la pratique avec un morceau extrait de ton album Colibri Live. Là, on va écouter Cassiopée et on se retrouve juste après ce morceau.
DJ Academy, le mag, l'interview.